fait que je ne fais pas les consommations, ça n'a pas de sens. Après, c'est parfois ambigu. Je me souviens d'une fois, j'étais en Chine et on arrive, on est invité dans le monastère. J'étais avec un frère qui s'appelle Dominicain, qui s'appelle Thierry Maricoro, qui est un spécialiste du bouddhisme. Et on nous invite, et le premier truc qu'ils nous demandent, c'est de déposer un grain d'encens devant le Bouddha. Et donc, moi, je me dis, bon, est-ce qu'on faut le faire ou pas ? Et donc, très courageusement, comme c'est le spécialiste du bouddhisme, je laisse passer devant. Donc, il pose le grain d'encens, il faut comme ça. Moi, je fais pareil. Et puis après, évidemment, j'ai réfléchi, puis en fait, ça m'a intéressé, je me suis dit, en fait, il faut se poser trois questions. Qu'est-ce qui se passe pour moi si je le fais ou si je le fais pas ? Qu'est-ce qui se passe pour eux si je le fais ou si je le fais pas ? Et qu'est-ce qu'attend le Seigneur ? Et là, en l'occurrence, pour un bouddhiste, le fait qu'on pose un grain ensemble devant le Bouddha, c'est simplement un de respect. On le fait pour tous les ancêtres. Et vous entrez dans une maison, vous le faites. Ça ne veut pas dire que vous devenez bouddhiste si vous le faites. Mais si vous ne le faites pas, c'est vraiment une insulte terrible. Donc, ils vous ont invité, vous êtes chrétien, et le premier truc qu'ils vous demandent, c'est « vous ne le faites pas », et en fait, c'est une insulte. Donc, qu'est-ce que Dieu attend de moi ? C'est que je le fasse. Mais imaginez que j'étais dans une autre situation, qu'il y avait des écrans de télé, je ne sais pas quoi. À ce moment-là, bien sûr, dans ce cas-là, je me serais un peu renseigné à l'avance sur les rites, on a vu ce qu'il fallait, ce qu'il fait ou pas. Dans ce cas-là, si je le fais devant un écran de télé, c'est retransmis devant les chrétiens, et je vais vous dire, le père en lui, il est bouddhiste. Donc il ne faudra pas forcément le faire. Donc c'est ça qui est compliqué. En fait, la situation. Voilà. Et donc la prière, elle a toujours un aspect communautaire. Voilà. C'est intéressant. Même si un chrétien trouve beau de se prosterner en prière, qu'il n'a pas de problème pour réciter la fatira dans son cœur, donc la prière de l'ouverture du Coran. Ben, il ne faut pas accomplir ce geste en public devant la communauté musulmane parce que c'est pour les gens, ça va vouloir dire ben, c'est lui, il est musulman. Et c'est intéressant. Donc, ça serait l'équivalent d'un musulman qui viendrait communier. Voilà. Et la troisième question, et dernière question, c'est de l'articulation entre dialogue et annonce. C'est-à-dire ces deux aspects très importants de la mission. Voilà. Il y a des aspects spécifiques du dialogue, vous voyez. Le dialogue interreligieux ne tend pas seulement des compréhensions. C'est dans un document qui s'appelle Dialogue et Annonce, qui a été fait par le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, c'était le nom qu'il avait à l'époque. Et donc, le dialogue interreligieux ne tend pas seulement une compréhension mutuelle à des relations amicales, il parvient à un niveau plus profond, celui-là même de l'esprit où l'échange et le partage consistent en un échange mutuel de ce que chacun croit. L'exploration commune des convictions religieuses respectives. Et là, c'était en Algérie, ça c'est moi quand j'étais jeune, et on est allé voir des soufis, c'était intéressant, une confrérie, et je leur avais demandé de nous expliquer qu'est-ce qu'ils faisaient en fait dans la prière, parce que souvent ils font des prières qu'on appelle le zikr, c'est le souvenir. Donc on commémore tous les chefs de la confrérie, puis on prie Dieu, et puis c'est très répétitif. Puis après, on peut faire comme le chapelet musulman, on peut répéter parfois Allah, 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 et tout ça. Et on le fait avec un rythme cadencé qui fait qu'à un moment donné, on essaie de s'oublier. On disparaît en quelque sorte devant Dieu, et le niveau le plus élevé du niveau mystique, c'est ce qu'on appelle l'anéantissement. On n'est plus rien devant Dieu, on laisse Dieu être tout. Voilà. Et alors il nous explique ça, comme lui il était souvent en dialogue avec, c'était près de l'église Saint-Augustin, Jaya, là où Saint-Augustin avait été évêque, près d'Hippone, à Hippone, et donc il parlait de ce qu'on avait été prêtre. Il dit, mais en fait je crois que dans l'Eucharistie, vous venez quand même quelque chose d'un peu similaire. C'est intéressant parce qu'on a une discussion sur laisser Dieu être tout, comment on le vit dans nos religions. C'est intéressant, donc on peut travailler comme ça. Et donc on dialogue, mais en même temps, il y a l'annonce. L'annonce, c'est une mission donnée par le Seigneur ressuscité à son Église. Donc les textes du Nouveau Testament invitent clairement à annoncer la bonne nouvelle. Cette annonce fait partie de la mission de l'Église. Une continuité entre le royaume prêché par Jésus et le mystère du Christ annoncé par l'Église. Et donc c'est l'Esprit Saint qui donne son sceau au témoignage de Jésus. Et donc en fait, c'est que ce qui est à retenir, parce que parfois il y a des gens qui opposent de soit tu vas annoncer Jésus dans la rue et convertir les gens, soit tu vas dialoguer. En fait, les deux vont de pair, parce que dialogue interreligieux, l'annonce, si tu vas essayer de convertir les gens, mais que tu commences pas par les écouter et que les gens ne sentent pas que tu les intéresses, en fait, ils n'écoutent pas. Je pense que ça vous est déjà arrivé, peut-être qu'un musulman vient essayer de vous expliquer que la Trinité, c'est idiot. Écoute, c'est ce que tu penses, mais je veux dire, ça n'a pas de sens. Si on entre dans la logique, en fait les polémiques n'ont jamais converti les gens, sauf les gens qui les font. Ça les aide à être encore plus convaincus. Et 14 siècles de polémiques dans les deux sens, j'ai tous les arguments dans les deux sens, mais ça ne convainc pas grand-chose. Par contre, être à l'écoute des gens, beaucoup de gens, des musulmans qui étaient chrétiens, ils s'y viennent chrétiens, c'est parce qu'ils ont été touchés par, à un moment donné, par l'écoute qu'ils ont reçue, par le Christ qui leur a parlé, rarement par des arguments apologétiques venus de l'extérieur. Et annoncer Jésus-Christ, c'est annoncer comme Dieu nous parle, c'est-à-dire avec beaucoup de patience, beaucoup de dialogue, et c'est très important. Et moi, je constate souvent que en fait, dans des lieux où on est dans le dialogue et dans l'amitié, ça permet beaucoup de choses. Et ce que j'ai constaté, et je constate pas tout, j'ai pas mal d'amis musulmans qui m'invitent, on m'invite à donner des cours, il y a des musulmans qui m'ont invité à leur donner un cours sur l'Eucharistie, des jeunes qui se formaient, parce qu'ils voulaient comprendre quelque chose du mystère de l'Eucharistie, ils me font confiance, ils me disent pas, oh là là, c'est un prêtre qui va nous convertir. Mais je leur explique l'Eucharistie, moi je témoigne de la foi chrétienne, je leur dis vraiment ce que ça m'apporte, ce que ça me touche. Quand j'ai fait la prédication à la mosquée, je leur ai expliqué j'ai essayé d'expliquer à partir de la théologie chiite, pourquoi nous on disait que Jésus-Christ était fils de Dieu et pourquoi c'était important pour nous qu'il meure sur la croix. Ils ont été très intéressés, parce qu'en fait, si tu invites quelqu'un, tu as envie qu'il parle de ce qu'il connaît. Et donc, voilà. J'ai terminé par une image des moines de Tibérine. Voilà. Si vous avez des questions, je vais vous répondre. Allez-y, allez-y.
Moi, j'ai une question. D'abord, la question, c'est qu'est-ce que vous pensez de la possibilité d'un dialogue religieux aussi sur Internet, parce que par exemple, si on regarde, je sais que, juste un exemple privé, c'est que si on prend une vidéo, je ne sais pas si on regarde sur YouTube, donc je pense au premier rapport sur chrétien là-dessus, une vidéo plus juste, c'est quand même une vidéo débug Mohamed, bon, avec le vocabulaire pour attirer les coups.
En fait, je pense que sur les sites, sur les réseaux et sur les sites, tu peux faire une promotion du christianisme et essayer d'expliquer le christianisme aux musulmans. Moi, j'ai vraiment essayé de le faire. Je pense que c'est très important, par des mots simples, c'est expliquer la foi chrétienne aux musulmans avec cette arrière-idée, cette idée d'un arrière-fond de présenter la foi. Après, je trouve que les sites qui consistent à démolir l'islam, ça ne sert à rien. Enfin, je pense que ça, c'est pas un beau témoignage du christianisme, et puis ça ne touche pas les musulmans. S'il y a des vraies personnes derrière qui se rencontrent vraiment, ça peut marcher. Donc on a des sites, moi j'ai un site, on essaie de, avec un musulman, on essaie de traduire par exemple. On ne l'a pas mis encore, mais on a essayé de traduire le Coran pour des couples islamo-chrétiens, par exemple, en essayant de voir un peu On a commencé avec deux sourates, mais essayer de voir un peu quelles étaient les questions spirituelles qui pouvaient être partagées en commun ensuite. Donc il y a des choses qu'on peut, il y a des textes sur le dialogue des savants chrétiens, mais on existe plein sur Internet. Donc c'est comme des livres. Je veux dire, si derrière il y a des choses, des gens qui se connaissent, qui se parlent, le risque c'est toujours que on discute avec ses arguments sans connaître les autres, qu'en fait on se parle pas mal. Oui.
Merci pour me donner. Moi, j'ai eu le sentiment que je suis vraiment centré toujours sur le dialogue avec les musulmans, mais dans la suite un peu de ce que Père Maxime vous avez présenté sur notre Aïdaï, le fait que on discutait avec des personnes tout d'abord en tant qu'elles avaient accès à des justement de vérité. Et ma question, c'est du coup, est-ce que ça ne bouge pas un petit peu une forme de statu quo? On considère que les chrétiens resteront chrétiens dans leur voie ordinaire. Les musulmans resteront musulmans dans leur voie individuellement, bien entendu, que les mener au salut d'après la volonté de Dieu, mais finalement, peut-être plus d'activité missionnaire et peut-être des cas aussi. Un cas qui me pose question, si vous l'avez évoqué, c'est celui des couples interreligieux, parce que le mariage est énormément un sacrement. Et donc, dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire que. On baisse un peu les bras sur la possibilité de que quelqu'un accède à la voie chrétienne.
Alors, bon, merci pour cette question. Je pense qu'en fait, il ne faut pas dissocier le dialogue et l'annonce, c'est-à-dire que ça fait partie de notre engagement de témoigner de notre foi. Alors, Saint François d'Assise, dans sa première règle, qui a finalement pas été retenue, mais parce que ce n'est pas à cause de ce point-là, c'est qu'ils n'ont pas retenu ce point-là, il disait qu'il y avait deux manières d'être chrétien au milieu des musulmans. Pour la majorité, c'était simplement vivre comme chrétien au milieu des musulmans sans nier ce qu'on est, c'est-à-dire en fêtant nos fêtes, en faisant la messe. Et puis pour certains, avaient la vocation d'aller explicitement frapper la porte des musulmans pour témoigner leur foi. Donc je pense qu'il y a les deux vocations, et je pense que mais c'est pareil vis-à-vis de la société, c'est-à-dire. Le meilleur témoignage, d'abord, enfin le témoignage que tout le monde est appelé à vivre, c'est de vivre notre foi comme chrétien dans le monde d'aujourd'hui, en témoignant notre foi par nos engagements, par notre charité, par notre manière d'être, par notre capacité à dire aussi aux autres qui nous interrogent, ou à dire bah oui, je vais à la messe le dimanche, chez moi, c'est important pour moi, etc. Et c'est déjà un témoignage. Après que certains soient appelés plus explicitement à être missionnaires, qu'ils ont un appel dans leur cœur pour parler aux autres, ils le font, et c'est bien aussi. Mais tout le monde n'est pas explicitement appelé à le faire. Et finalement, ce n'est pas nous qui convertissons, c'est l'esprit qui convertit hein, les gens. Alors après, pour les couples, je pense qu'un couple est mal barré si il s'épouse dans l'idée de convertir l'autre. Je pense qu'il vaut mieux pas qu'il se marie dans ce cas-là. Il vaut mieux que ça se fasse avant ou après. Mais il est possible de rentrer dans un vrai respect de la foi de l'autre. Une fois que les deux ont vraiment réfléchi, qu'ils ont leurs convictions, que par contre la question va se poser pour le baptême des enfants. Mais là, ils vont agir différemment. Il y en a qui. Je me souviens d'un couple qui m'avait dit, un gars algérien m'a dit, mais moi je. Ce serait difficile pour moi de baptiser mon fils, tout ça, si j'en ai un. Puis en fait, deux ans après, il m'appelle et il me dit, tu veux pas baptiser notre fils? Bah, t'as changé d'avis. En fait, objectivement, moi je suis pas pratiquant, ma femme est pratiquante, c'est elle qui est chrétienne, ça n'a pas de sens de donner une appartenance religieuse à mon enfant, alors musulmane, alors que moi je suis pas pratiquant. Donc parfois, c'est des réflexions comme ça. Parfois, ils font d'autres choix. Parfois, ils ne leur donnent pas d'appartenance. Ils parlent des deux religieuses. Mais forcément, la question se pose. Mais je ne pense pas que je pense pas que Dieu demande à des personnes qui se marient ensemble, qui sont de religions différentes, de se chercher à se convertir mutuellement. on ne pense pas. Après, ça peut arriver, ça se fait, parfois il y a des erreurs, mais l'esprit travaille et on laisse l'esprit travailler. Et si une personne se convertit, ben, elle se convertit. Mais souvent, en fait, la conversion, elle va déjà avoir différents stades. Et peut-être qu'une première conversion, c'est déjà de pouvoir vivre avec une personne de notre religion, avec un grand respect de ce qu'il a et une grande ouverture. Puis après, peut-être que cette personne va dire, mais est-ce là que Jésus-Christ, il est important même pour moi, alors que je suis musulmane, et peut-être que ça, Dieu ne va pas le pousser à forcément à demander le baptême. Peut-être que là, c'est déjà, il aura fait un grand pas. Donc c'est ça que je passe à toi ta question.
Non, mais je parle de ça. Le cas de Jésus-Christ, c'est l'été de Maria Denise, et souvent, la question entre la question de baptême des enfants, ça peut aussi porter sur l'orientation du mariage et son caractère en tant que sacrement. Par exemple, le fait que, notamment, il y a beaucoup de demandes catholiques du fait de reconnaître l'importance de la fécondité, la possibilité de la fécondité dans le mariage. En fait, dans ces mariages mixtes, comment est-ce qu'on est considéré le caractère sacramentaire?
Oui, alors après, il y a tout un débat sur la sacramentalité ou pas d'un mariage avec disparité de culte. Je ne vais pas rentrer dedans, mais les théologiens ne sont pas 100% d'accord là-dessus. Même si une majorité pense qu'il n'y a pas de sacramentalité dans le mariage d'histoire. Mais parce qu'en fait, tout dépend de où on met l'accent. Est-ce qu'on met l'accent sur le fait que c'est le couple qui sont les ministres du sacrement uniquement, ou est-ce qu'on met l'accent sur le fait que pour que le sacrement soit valide, il faut aussi qu'il y ait un témoin de l'Église qui reçoive ces sacrements, et que la validité peut être liée aussi au témoignage à la personne qui reçoit le sacrement. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans, on pourrait faire si vous voulez quelque chose là-dessus. Enfin, mais la différence avec un couple mixte protestants catholiques, c'est que en fait dans l'islam les choses sont d'emblée compliquées. C'est-à-dire que il y a le prénom qu'on va donner à l'enfant, il y a est-ce qu'on va manger de la viande halal, il y a est-ce qu'on accepte qu'il y a du porc dans le frigo ou pas. Donc il y a tout un tas de questions très pratiques qui vont faire qu'on va être obligé de se positionner beaucoup plus vite et qu'il y aura en fait beaucoup moins d'ambiguïté qu'un mariage protestant, surtout que, par exemple, pour l'Église réformée de France, l'Église unie, souvent, ce qui est important, c'est pas d'être protestant ou d'être catholique, c'est d'être chrétien. Sachant que dans les mariages de l'Église réformée, par exemple, au Temple de l'Étoile, il y a 90% des couples qui vont là sont des couples mixtes. Parce que, étant donné les rapports de proportion, si vous voulez, 90% des protestants incluent des catholiques. Et donc, pour eux, l'appartenance confessionnelle est moins importante que pour un catholique, par exemple. Mais bon, voilà, c'est des choses. Mais ça se pose très différemment pour l'islam. Oui.
Merci beaucoup, Jean, pour votre
référence.
Moi, c'est un thème qui me parle beaucoup. J'ai beaucoup à personne musulmane. J'ai beaucoup cette dialogue. Il y a aussi beaucoup de fois, en fait, on sent que le sujet est tellement sensible et intime que très vite, en fait, ça dérive sur le terrain polémique. Ouais. Et c'est des situations où c'est très compliqué de savoir comment revenir justement à un dialogue et pas à un échange d'argumentation.
Moi, le conseil que j'aimerais, c'est de toujours partir de l'expérience. Parce que c'est vrai que c'est un sujet très polémique, et souvent dans des conférences que j'ai faites, il y avait beaucoup de gens. En fait, il y a 4 ans, on a fait une rencontre interreligieuse à Saint-Sulpice, et j'ai eu pendant 2 mois des centaines de lettres d'insultes, des emails d'insultes, les jeunes de la paroisse, ils ont reçu des mails en disant vous devriez quitter la paroisse, tout ça. Et donc le sujet est de fait très vite conflictuel. Il y a des gens de Saint-Nicolas de Chamonix qui ont été fait un chapelet de réparation devant l'église et tout ça. Et donc en fait, j'ai fait pas mal de conférences où il y avait des gens qui étaient là pour même s'aborder la réunion et tout ça. Mais en fait, à chaque fois, moi, je partais de l'expérience. Donc, ils me disaient, bah, c'est comme ça. Je dis, écoutez, peut-être qu'il y a eu ça. Moi, je ne sais pas ce que j'ai vu. Moi, je vous parle de ce que j'ai vu. Je vous parle de ce que j'ai vécu. Puis, en fait, il n'y a pas trop d'arguments. Donc, mon idée, c'est toujours partir de l'expérience. Si on en a. Et si on n'en a pas, on dit, bah, je ne sais pas. Et c'est comme sur le débat, quand on rencontre des musulmans, quand on essaie de faire quelque chose, plutôt que d'avoir des grands débats sur le fait de savoir est-ce que Jésus est plus qu'un prophète, est-ce que Mahomet est un prophète et tout ça, ben, commencer par dire, tiens, quand tu pries, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Voilà. Si quand il y a un décès dans ta famille, comment tu pries? Quand tu es joyeux, comment tu pries? Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Ou comment? Voilà. C'est des choses très existentielles et c'est ça qui... Il fait avancer en fait la rencontre.
Oui. On a parlé du problème que peut poser le dialogue par rapport à l'évaluation vis-à-vis des musulmans. Et moi, je pensais notamment aux tiers, c'est-à-dire aux non-croyants ou agnostiques qui sont la majorité de la population aujourd'hui. Est-ce que le principal risque du dialogue interreligieux, c'est qu'il n'établit pas une forme d'équivalence un peu fallacieuse entre tous les cultes, enfin ce que la loi appelle les cultes, et que notamment vis-à-vis des tiers, et que du coup, on établit une espèce de. Par rapport aux agnostiques ou aux incroyants que les chrétiens essaient d'évangéliser, on n'était pas cette espèce d'équivalence. C'est un peu ce qu'on dit au discours de Jean-Paul II, où on va dire que finalement la soumission c'est un peu la même chose que l'abandon, alors qu'en fait, ça, j'imagine que ça n'a strictement rien à voir dans la théologie.
Bien sûr, dans les termes en fait, islam, c'est ça que ça veut dire. Mais bon, peu importe. En fait, il y a deux questions. Dans ce que vous dites, il y a une vraie question. Je ne pense pas que les religions doivent constituer une espèce de rempart identitaire qui ne dialogue pas avec le reste du monde. Et je pense que les chrétiens ne doivent pas être omnibulés par l'islam, sachant que le premier lieu de témoignage, c'est d'abord le témoignage de vie au milieu des personnes dans lesquelles ils vivent. Et donc des chrétiens qui se disent « il faut que j'évangélise et donc forcément c'est que j'aille transformer des musulmans en chrétiens », ils oublient qu'en fait 70% de la population elle a besoin d'entendre la parole du Christ et que le premier devoir du chrétien c'est d'être missionnaire par sa manière d'être et par ses paroles là où il vit. Et donc on risque parfois de se tromper en étant focalisé sur l'islam.
Justement, c'est ma question, c'est est-ce que cette présence de l'islam et le dialogue interreligieux ne créent pas du coup une espèce de confusion dans la représentation des cultes, la représentation de la religion chrétienne parmi la population qui n'a plus justement cette culture? C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le fait qu'aujourd'hui, quand on veut expliquer le jeûne, on va plus passer par le ramadan, parce que ça parle aux gens, parce que du coup l'image leur est...
Oui, en fait, il faut vivre avec en fonction de son époque. Donc, il y aura peut-être des ambiguïtés, mais en même temps, ça n'empêche pas qu'il faut discuter avec tout le monde, en fait. Et donc, il faut discuter avec les autres religions, il faut pouvoir témoigner aussi de choses communes qui nous rassemblent et construire la paix. Et je pense qu'on a un témoignage, les religions ont un témoignage à donner ensemble aussi vis-à-vis de ceux qui ne croient pas en Dieu. Et donc je pense qu'il faut le faire. Après, des risques d'ambiguïté, il y en aura toujours. Donc il faut être conscient juste des limites et des ambiguïtés. Je ne sais pas si c'est un peu une question.
Merci beaucoup, mon père.
Voilà, je vous en prie.